Vous écoutez, on lit pour vous.
Vers un regain d'intérêt pour les produits locaux, un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 1er février 2025 dans la presse. Un bras de fer commercial avec les États-Unis, des appels au boycottage qui se multiplient. Les astres semblent alignés pour une remontée de l'engouement pour l'achat local. La situation est très complexe, mais c'est certain que ça va amener une nouvelle vague qui va être temporaire, mais qui va soutenir l'économie locale et de jeunes entreprises comme la nôtre, dit le cofondateur de Pretty Ugly, Pierre-Olivier Gendron, en précisant que, d'un mouvement temporaire, il reste toujours quelque chose. Peut-être que des clients vont découvrir des produits locaux, dit-il, et ensuite, dans leur cycle d'achat, ils vont intégrer un produit québécois supplémentaire. Pretty Ugly fait des salsas et des croustilles de maïs et s'offre ces jours-ci un joli pied de nez au marché américain. L'entreprise s'est associée au cocktail sans alcool Mox et aux pizzas Phil et Fred. Le trio propose un Super Bowl 100% québécois en présentant une offre commune dans les supermarchés bien en évidence. Quoi de mieux que de s'approprier l'événement le plus américain de l'année, demande Pierre-Olivier Gendron. La directrice générale des produits du Québec est très optimiste. « Je m'attends à un regain de la vague de l'achat local », dit Elfie Morin. Les produits du Québec et l'organisme indépendant qui certifie les produits non alimentaires d'ici. On entend déjà que les consommateurs ont plus de sensibilité et je vois sur nos réseaux sociaux des consommateurs plus engagés, poursuit Elfie Morin, qui souhaite que les détaillants profitent de cette occasion pour mettre en vedette les produits d'ici plus que jamais. L'organisme collabore avec une vingtaine de détaillants, dont Jean Coutu, Walmart, BMR et Canac. Pour nous, c'est important que les détaillants collaborent, parce que s'ils ne mettent pas de l'avant les produits du Québec, ça va être difficile d'avoir accès aux consommateurs. Exit les vins californiens. S'il y a bien un endroit où l'on espère que les produits québécois trouveront plus de place sur les rayons, c'est à la SAQ. Québec a annoncé cette semaine qu'il envisage de retirer les vins américains en représailles à l'imposition de tarifs. Presque 7% des vins vendus à la SAQ sont américains, surtout californiens. Le président de la SAQ nous dit que c'est dur de nous faire plus de place parce que les consommateurs consomment moins, dévoile Mélanie Gore, directrice générale du Conseil des vins du Québec. Si on vide les rayons des vins américains, il y aura plus d'espace pour les produits locaux qui, eux, sont en croissance. Car si la vente de vins stagne à la SAQ, les ventes de vins québécois sont en augmentation. Une hausse de 8,5% l'année dernière. Quel bon timing, lance Mélanie Gore, qui demande déjà de pouvoir récupérer de l'espace. Malgré une croissance soutenue, les vins québécois ne représentent que 1% des ventes de vins à la SAQ. Les consommateurs nous disent qu'ils en veulent plus, précise Mélanie Gore. Pourquoi ne pas être opportuniste? Si on ne passe pas à 2% ou à 3% sérieusement, c'est parce qu'on manque d'ambition au gouvernement et à la SAQ. Il reste toutefois à convaincre les buveurs de Cabernet Sauvignon californien de migrer vers des rouges québécois beaucoup plus vifs. Pas si simple. Mais il n'y a pas qu'une question de goût. Il y a une question de coût. S'il est un fervent défenseur de la consommation locale, Guillaume Mathieu est moins convaincu que le contexte actuel fera redécoller la ferveur des consommateurs. À ce moment-ci, le budget du consommateur est serré. On lui demande de faire un achat local pour soutenir l'économie, mais c'est le prix qui est le principal critère des consommateurs, dit Guillaume Mathieu, cofondateur d'ILO, une firme de consultation qui accompagne les entreprises bioalimentaires d'ici. Selon lui, On ne peut donc pas s'imaginer que l'appel à l'achat local résonne de la même manière aujourd'hui que durant la pandémie, au moment où le budget discrétionnaire des consommateurs était beaucoup plus garni. On avait vu les ventes des bières de microbrasserie exploser, rappelle-t-il à titre d'exemple. Alors que depuis, une partie des consommateurs ont migré vers des enseignes au rabais pour leur épicerie. Certains ne feront pas le chemin inverse. Le cofondateur de Pretty Ugly est d'accord. Mais Pierre-Olivier Gendron croit que dans le contexte actuel, les gens vont prendre un peu plus de temps à l'épicerie pour faire des comparaisons. C'est un temps de réflexion, dit-il, qu'ils n'auraient peut-être pas pris avant. Et ce genre de réflexion fait toujours un petit bout de chemin. D'autant que, si les prix des produits américains augmentent, les produits québécois deviendront plus intéressants, question de coût aussi, poursuit-il. Et les appels au boycottage? Ils fonctionnent lorsqu'ils visent une entreprise ou un produit très précis, soutient Guillaume Mathieu. C'est clair dans la tête des consommateurs quand on nomme une entreprise, dit-il. Comme pour Amazon. Le consommateur comprend l'impact de sa décision d'achat. L'équation directe se fait, poursuit Guillaume Mathieu, qui croit qu'un boycottage plus large s'applique plus difficilement. J'ai beaucoup de doutes, poursuit-il, sur un mouvement de boycottage sur tous les produits alimentaires américains, parce que la majorité de nos fruits et légumes à ce temps-ci de l'année vient des États-Unis. Selon lui, Québec ferait mieux de soutenir les campagnes positives qui proposent la consommation locale d'une manière efficace et continue plutôt que de réagir aux catastrophes. Comme durant la pandémie. Cela mènerait à des changements durables plutôt que réactifs. On a un grand travail en tant qu'industrie agroalimentaire pour positionner des arguments positifs et non uniquement être en mode réactif comme c'est le cas actuellement. En savoir plus. 70%. 7 Québécois sur 10 disent devoir faire des compromis sur leurs achats alimentaires en raison de l'augmentation des prix. Source, étude Bouillon 2025, ILO avec Léger. 72%. La majorité des Québécois, 72%, ne sont pas prêts à payer plus cher, plus ou moins 5% de plus, pour un produit local. Source, Nielsen, IQ, 2024. C'était « Vers un regain d'intérêt pour les produits locaux », un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 1er janvier 2025 dans La Presse.
Prison ou école? Le gouvernement a choisi. Un texte de Sophie Benoît, paru le 18 mars 2024, dans La Presse. Je suis enseignante au secondaire, dans une école publique, défavorisée, multiethnique. J'enseigne la grammaire du français, une deuxième, une troisième, voire une sixième langue pour certains de mes élèves, ainsi que la littérature et la culture québécoise. Mais parfois, je veux simplement m'assurer qu'un élève soit assis dans ma classe, même s'il ne m'écoute pas. Parce que pendant qu'il est là, ce garçon n'est pas en train de se battre. Parce que pendant qu'elle est là, cette fille n'est pas dans la rue. Parce que pendant qu'ils sont là, mes enfants sont en sécurité. Et chaque fois qu'ils franchissent la porte de la classe, c'est avec le sourire que je les accueille, même s'ils n'ont pas leur matériel, même si je sais qu'ils dormiront sur leur pupitre dans quelques instants. J'enseigne pour éduquer, j'enseigne pour protéger, j'enseigne par conviction. J'enseigne avec l'espoir qu'une année de plus sur les bancs imparfaits du système d'éducation publique donnera à certains et certaines de meilleures chances de tirer leur épingle du jeu. Tous et toutes ne termineront pas leur secondaire, mais beaucoup auront les acquis nécessaires pour accéder à un DEP ou pour se préparer au monde qui les attend à l'extérieur. Mon école déborde. Pourtant, on y trouve toujours de l'espace pour accueillir les nouveaux élèves. On a fermé, au cours des dernières années, des locaux informatiques, une bibliothèque, des classes d'accueil. Mon école déborde, mais la direction, les enseignants et enseignantes et les membres du personnel s'acharnent à offrir ce qu'il y a de mieux à tous les élèves pour les protéger, pour leur offrir un avenir. Manque de scolarité. Mais pendant que mon école déborde, pendant que des milliers de voix s'écrient dans la foulée de la grève des enseignants qu'il faut valoriser l'éducation, le gouvernement choisit de construire dans un de ses quartiers-villes, le quartier de Montréal qui compte le plus grand nombre d'enfants et de jeunes familles, une prison. À quelques centaines de mètres de mon école, dans les cours arrière de mes élèves, en plein quartier résidentiel, on veut faire renaître une prison pour femmes. Ce qui est ironique, c'est que lors de la présentation publique du projet, en janvier, au collège Regina Assumpta, des gens emplis de bienveillance ont souligné les enjeux liés à l'incarcération des femmes, la pauvreté, la nécessité, la violence familiale, l'ignorance, le manque de scolarité, tout ce que mon école, juste à côté, lutte à contrer. Tout ce que les écoles, si elles étaient plus nombreuses, mieux valorisées, mieux outillées, pourraient enrayer. Des chercheurs le soulignaient dans les pages du Devoir le 19 février 2024. Incarcérer les femmes n'est pas la solution. La solution, tout le monde le sait, c'est l'éducation. Mais le gouvernement ne veut pas construire une nouvelle école. Il veut construire une nouvelle prison. De là à dire qu'il n'offre pas beaucoup de chance ni d'espoir aux enfants, il n'y a qu'un pas. Allez faire croire aux jeunes, et aux filles en particulier, qu'on veut leur bien, alors qu'on érige des établissements de détention dans leur quartier, plutôt que de leur offrir les écoles qui pourraient leur donner des ailes. C'était « Prison ou école ?» Le gouvernement a choisi, un texte de Sophie Benoît, paru le 18 mars 2024 dans la presse.
À la rescousse de l'ail des bois, un texte de Jeanne Corriveau, paru le 18 janvier 2025 dans Le Devoir. Près de 30 ans après avoir reçu le statut d'espèce vulnérable, l'ail des bois, Allium trichocum, fait toujours l'objet de restrictions sévères quant à sa cueillette et à sa vente au Québec. Des amateurs se sont toutefois donné pour mission de favoriser sa propagation en faisant des distributions gratuites de semences dans l'espoir d'assurer un meilleur avenir à cette plante sauvage un peu trop convoitée. Plante de la famille des Amaryllidacées, l'ail des bois a été la cible d'une cueillette intensive qui a conduit le gouvernement du Québec à en interdire le commerce en 1995. C'est que cette plante pousse lentement. Elle peut mettre de 7 à 10 ans avant d'atteindre la maturité. Présente dans le sud du Québec, elle a besoin de conditions particulières. Elle se plaît dans les forêts de feuillus, les érablières en particulier, avec un sol humide, mais bien drainé et riche en matière organique. L'ail des bois émerge dès la fonte des neiges, mais perd son feuillage quand l'été s'installe. Après sa floraison, il faudra attendre à l'automne pour récolter les semences. Depuis 1995, il est donc interdit au Québec de cueillir plus de 50 bulbes par année, par personne, ou 200 grammes de la plante, et toute vente, qu'il s'agisse du bulbe, des feuilles ou des semences, est interdite. En Ontario, la cueillette et le commerce de l'ail des bois ne sont pas soumis aux mêmes contraintes, mais plusieurs voix s'élèvent pour plaider en faveur d'une cueillette responsable. L'ail des bois est cher au cœur de bien des Québécois, constate Samy Beauséjour, fondateur du groupe Facebook « Ail des bois du Québec ». Qui compte plus de 46 000 membres. Peut-être parce que c'est la première plante qui sort du sol après un hiver si long
Il y a aussi le fait que ce soit délicieux et qu'il pousse souvent dans les érablières, indique-t-il. Chef cuisinier, M. Beauséjour décrit en ces mots le goût de l'ail des bois. C'est entre l'échalote de Sainte-Anne et l'ail conventionnel. C'est assez doux, mais juste assez fort pour pouvoir le cuisiner. Il a un goût qui, selon moi, est parfait. Une façon responsable de récolter l'ail des bois est de prélever une feuille sur deux plutôt que de déterrer le bulbe, dit-il. C'est vraiment la meilleure partie de la plante, assure-t-il. Samy Beauséjour s'intéresse à l'ail des bois depuis longtemps, car l'érablière appartenant à sa famille comptait autrefois une belle talle, jusqu'à ce que celle-ci soit décimée par un cueilleur intempestif. Depuis, il a entrepris d'en replanter. C'est pour contribuer à protéger l'espèce qu'il y a 3 ans, il a créé son groupe Facebook afin que ceux qui ont des colonies sur leur terrain puissent distribuer des semences aux autres membres du groupe. La distribution qui a été lancée en octobre 2024 a cependant été perturbée par la grève des postes. Signes encourageants. Les efforts pour protéger l'ail des bois ont-ils donné des résultats? Au ministère de l'Environnement du Québec, on demeure prudent. Au moment de sa désignation en 1995, on estimait le nombre d'occurrences à 70. Actuellement, plus de 500 occurrences d'ail des bois sont documentées au Centre de données sur le patrimoine naturel, reflétant une amélioration notable des connaissances sur cette espèce, indique le ministère dans un courriel au Devoir. La majorité des sites recensés se trouvent en Estrie et en Montérégie et, dans certains cas, les colonies compteraient plus d'1 million de plants, ajoute le ministère. Celui-ci considère toutefois que malgré les mesures de protection en place depuis 1995, plusieurs menaces demeurent, comme le braconnage et le développement urbain et agricole. Depuis 2011, plus de 322 000 bulbes d'ail des bois ont été saisis par des agents de la faune, principalement en Outaouais, ainsi que dans les régions de Chaudière-Appalaches et de la Montérégie. Et depuis 2022, les amendes sont plus salées à l'endroit des contrevenants. Les sanctions administratives peuvent varier de 2 000 $ à 10 000 $. Dans les cas les plus graves, des amendes pénales allant de 10 000 à 1 million de dollars peuvent être imposées à une personne physique et jusqu'à 6 millions de dollars pour une personne morale. L'ail cultivé. La sévère réglementation québécoise a permis de freiner le déclin de l'ail des bois, mais des experts et des amateurs croient qu'il serait justifié d'autoriser la commercialisation des plants cultivés et non ceux récoltés en forêt, de manière à réduire la pression sur les colonies naturelles. François Laliberté sème de l'ail des bois depuis qu'il est adolescent. Au fil du temps, il s'est familiarisé avec les conditions idéales de culture de cette plante. Sur son terrain, l'ail des bois couvre maintenant une superficie de 400 mètres carrés avec au moins 250 000 plants. Avec le bon environnement, le taux de survie et de croissance jusqu'à maturité grimpe, dit-il. Quand on laisse des semences dans le bois, elles sont déjà au milieu de colonies matures et n'ont pas vraiment d'espace pour croître. Il y a de 1 % à 3 % des plants qui vont se rendre à maturité, alors que quand on les sème dans des endroits où ils ont de l'espace pour se propager, on arrive à un taux de 80 % de plants qui peuvent se rendre à maturité, explique-t-il. Le comité en faveur de la commercialisation de l'ail des bois cultivés dont il est membre a écrit au ministère de l'Environnement afin qu'il autorise le commerce tout en appliquant des règles strictes afin de s'assurer de la provenance des bulbes. On veut redonner aux gens le goût de découvrir du terroir, mais en même temps, il faut qu'il y ait une disponibilité, fait valoir M. Laliberté. Mais le comité n'a pas encore réussi à convaincre les fonctionnaires. Globalement, il y a un risque que le commerce accroisse la popularité de l'espèce, augmentant conséquemment la pression de récolte dans les populations sauvages, souligne le ministère de l'Environnement. Les personnes qui connaissent l'emplacement de populations sauvages pourraient être tentées de s'approvisionner gratuitement en nature plutôt que d'en faire l'achat dans un commerce. Le ministère ajoute qu'aucune étude n'a été réalisée sur les conséquences de la commercialisation sur la conservation de l'ail des bois au Québec, ce qui constitue une préoccupation importante avant d'engager une réflexion plus approfondie. Déclin aux États-Unis. Aux États-Unis, où les colonies sont relativement abondantes, il existe des festivals autour du thème de l'ail des bois, notamment en Virginie-Occidentale et au Tennessee, signale Daniel Knisha, co-directeur du Centre d'études de la forêt de l'UQAM. Il possède même un ouvrage américain datant des années 1990 décrivant cette plante comme une « mauvaise herbe ». Mais, même aux États-Unis, où les colonies sont énormes, leur ampleur a diminué pas mal dans les dernières décennies, relate-t-il. Selon lui, d'autres espèces sont encore plus menacées au Québec que l'ail des bois, dont le ginseng à 5 folioles, car non seulement sa croissance est lente, mais son goût est apprécié par les serres de Virginie, contrairement à l'ail des bois. C'était « À la rescousse de l'ail des bois », un texte de Jeanne Corriveau paru le 18 janvier 2025 dans Le Devoir.
Tanné de parler à visage couvert, des créateurs queer africains s'assument. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 27 janvier 2025 dans le magazine Fugue. Légalement, Marc, Colin et Alan n'existent pas. Les noms des trois participants ont été changés pour leur sécurité. Marc est un homme trans et Colin et Alan font partie de la communauté non-binaire. Leurs identités n'ont aucune reconnaissance légale ni en Tanzanie, chez Marc, ni au Ghana, où vivent Colin et Alan. Entre amis ou derrière la caméra, par contre, les trois militants et passionnés de cinéma peuvent être eux-mêmes. Depuis plusieurs années, ils participent au projet de mentorat 75 Shots Pocket Cinema, une initiative de la cinéaste montréalaise Karine Azé. À l'origine, en 2016, selon la fondatrice, le projet avait pour but d'envoyer des téléphones intelligents et autres équipements aux aspirants cinéastes queer dans les pays où l'homosexualité ou la transidentité étaient criminalisées pour leur offrir des occasions de développement professionnel. À l'époque, il s'agissait de 75 pays. Maintenant, on en compte une soixantaine. 8 ans plus tard, certains participants sont devenus des formateurs et d'autres ont fondé des entreprises. Leurs films ont été présentés à l'ambassade britannique à Dar es Salaam, Tanzanie, ainsi qu'au musée McCord et au festival Brûlance. Une 10aine de passionnés suivent des formations régulières en ligne, qui sont une occasion de parler ouvertement de leur vécu entre pairs tout en améliorant leurs compétences. Karine Azé rêve d'offrir à Marc, Alan, Colin et à leurs camarades la possibilité d'assister à une résidence de création en Afrique du Sud pour respirer l'air d'un pays où leurs identités sont reconnues, se rencontrer pour la première fois après des années de vidéoconférences et commencer à tourner un long métrage en développement depuis plusieurs années, en collaboration avec des artistes queer sud-africains. Quand j'ai commencé à étudier le cinéma, tous les équipements étaient si lourds, si chers et si compliqués, s'enthousiasme Karine Azé. Maintenant, mes étudiants n'ont pas besoin de dépenser des milliers pour une caméra. Ils peuvent travailler avec presque n'importe quel cellulaire. Je les aide avec quelques trucs pour peaufiner et professionnaliser leur travail. Le 15 décembre dernier, la cinéaste a organisé une rétrospective des films de 75 Shots Pocket Cinema à l'Agenda, une librairie LGBTQ+ féministe du Maryland, afin de lancer une campagne de financement pour le projet. L'autrice, chercheuse et cinéaste nigériane Onoma Azua, venue des États-Unis pour l'occasion, présentait l'anthologie littéraire bilingue « Coincée entre Dieu et les hommes », histoire de femmes queer d'Afrique de l'Ouest, dont elle est coéditrice. Le travail d'Unoma parle d'amour, de défiance et de résilience face à l'oppression. Son écriture incarne l'esprit de 75 Shots, créativité en tant que résistance, survie et liberté, disait Karine Azé en guise d'introduction. En effet, l'histoire de romance secrète relatée par Unoma Azua, tirée de son livre, est empreinte d'une sorte de rébellion joyeuse qui rappelle bien un des objectifs du projet, selon Karine Azé, aller au-delà des histoires des pauvres petits queers. Cependant, chez Marc, Alan et Colin, même les récits les plus banaux sont sensibles. Les gens derrière ces films sont considérés comme des criminels chez eux. On ne peut vous les montrer que dans un espace sécuritaire comme ici, expliquait d'entrée de jeu Karine Azé aux quelques dizaines de personnes présentes. Tantôt avec une clarté documentaire, tantôt avec une dose de réalisme magique, les films explorent des questions d'identité, de famille et de survie dans un monde où il faut cacher une partie de soi-même. Les participants sont tannés d'être à visage couvert. Ils veulent être qui ils sont. Marc, Alan et Colin témoignent par vidéoconférence à la fin de la rétrospective, à condition qu'on ne révèle pas leur nom et qu'on ne les prenne pas en photo. Pour Alan, la résidence au Cap, prévue en avril, serait le rêve d'une vie pour nous tous. Ce sera la première fois qu'on pourra travailler ensemble, parler librement et centrer nos histoires queer, renchérit Colin, son compatriote. Des fois, je me réveille le matin en rêvant que je suis déjà là-bas. Karine Azé vise à amasser au moins 24 000 $ pour couvrir le transport et l'hébergement pour 8 participants de la Tanzanie, du Cameroun, du Ghana et de plusieurs autres pays vers le Purple Mountain Arts Residency, un lieu de retraite pour des artistes LGBTQ+ au Cap. Vous pouvez voir les films et faire un don en ligne à cinemafeast.com, cinemafeast.com ou via GoFundMe, gofundme.me/53b06a1e. Il est aussi possible de donner des équipements ou de s'impliquer comme bénévole en contactant Karine Azé à 75shots@gmail.com. 75shots@gmail.com. C'était Tanné de parler à visage couvert, des créateurs queer africains s'assument. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 27 janvier 2025 dans le magazine Fugue.